La manipulation positive. Dans cette partie, le côté anti-guide de cet ouvrage prend son premier sens. Je vais vous dévoiler les puissants secrets de la manipulation saine. La manipulation bienveillante et la manipulation honnête n'étant pas exactement la même chose. Vous pourrez ensuite choisir d'être toujours du bon côté de la force. La manipulation bienveillante. Comment être au service des autres? Nous y voilà. Existe-t-il une manipulation bienveillante? Comme pour toutes les choses dans notre vie, nous accolons des étiquettes de bien et mal un peu partout. C'est d'ailleurs cela qui nous permet de vivre en société. Je me pose quand même une question. Si mon meilleur ami est en dépression et que je mets en place des stratagèmes pour qu'il sorte avec moi se changer les idées, si j'essaie de faire en sorte que ma sœur arrête de fumer, si je tente de démontrer à un collègue à quel point son travail est toxique et qu'il doit en changer, suis-je en train de manipuler la personne pour mon propre compte? Suis-je en train de faire quelque chose de vraiment négatif? Vous ressentez au fond de vous que nous restons dans le cadre de la bienveillance, parce que la finalité est positive et nous semble légitime. Certains pourraient rétorquer que, malgré la bonne intention de la démarche, mon avis sur la situation que j'essaie de changer est complètement subjectif. C'est un avis qui découle de mes filtres mentaux, de mes valeurs ainsi que de mes croyances. Donc mon avis ne saurait être une vérité. En ça, mes détracteurs auraient raison. Je suis tellement sympa que je le fais à leur place. Pour autant, je ne parle pas de philosophie, mais bien de la réalité de votre quotidien, de notre quotidien à nous tous. Les exemples que je viens de décrire sont la vraie vie. Alors si nous manipulons inconsciemment avec des intentions bienveillantes, autant le faire bien, armé d'un savoir-faire positif. Quelle technique pouvez-vous utiliser dans le cadre d'une manipulation bienveillante? Eh bien, c'est là que le bât blesse. Il n'y a pas de technique pour le bien et d'autres pour le mal. La manipulation utilise souvent les faiblesses, les failles ou tout simplement le fonctionnement du cerveau dans notre manière de communiquer, d'analyser ou de prendre des décisions. Et un cerveau, on n'en a qu'un. Sauf dans le livre du conseiller d'Al Gore, mais ça n'est pas le propos. Nous avons donc tous un cerveau. Et cerise sur le gâteau, ils sont tous identiques dans l'écrasante majorité des cas. Les mêmes 68 à 100 milliards de neurones, les mêmes instincts de survie, les mêmes biais cognitifs, etc. C'est pour cela que les techniques de manipulation sont quasiment universelles et bien souvent intemporelles. Elles traversent les âges sans se soucier de l'époque, de la technologie ou des avancées de la société. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rapporter les conseils d'une personne plus qu'appréciée par le gouvernement qu'elle sert. Cette personne explique comment manipuler les informations en conseillant de prendre soin de trouver un équilibre entre la vérité et le mensonge afin de gagner en crédibilité. Elle explique également qu'il faut connaître sa cible au mieux, les personnes que l'on souhaite manipuler, déterminer un objectif précis, puis manipuler les émotions plutôt que le mental pour atteindre cet objectif au moyen de la diffusion de fausses informations. Pensez-vous que je parle de quelque chose d'actuel, de fake news? Cela vous renvoie à des histoires politiques récentes? Pourtant, je ne fais que décrire un passage sur la duperie, écrit par le général Sun Tzu dans son ouvrage « L'art de la guerre » paru il y a plus de 2500 ans. Cela nous semble très quotidien puisque pendant que la société change, la psychologie humaine fonctionne toujours à l'identique. D'ailleurs, cette technique de la fausse information sera encore utilisée par Rome pour lutter contre les chrétiens en expliquant, par exemple, que les fidèles sont des cannibales, mensonge qui touche l'émotionnel, puisqu'ils mangent le corps du Christ, demi-vérité puisqu'il s'agit d'une métaphore. C'est presque bluffant de se dire qu'ils se sont servis de la phrase prononcée lors de la prise de l'hostie pour la traiter au premier degré. Plus tard, la Révolution française voit elle aussi son lot de fausses informations écrites par les journalistes eux-mêmes. Plus récemment encore, Donald Trump a pris beaucoup de place dans les médias, dont l'objectif simple d'en laisser moins aux autres, l'art d'occuper le terrain. En utilisant donc ce principe vieux de milliers d'années. Un mensonge proche d'une vérité, transmis de manière la plus concise possible, qui va activer l'émotionnel plutôt que l'intellect. Voici l'un de ses mémorables tweets datant du 6 septembre 2017. We'll be going to North Dakota today to discuss tax reform and tax cuts. We are the highest taxed nation in the world. That will change. Le message est donc très court. Sa cible est la majorité de la population américaine qui paie des taxes. L'objectif est d'être reconnu comme celui qui les comprend. La première partie du message est vraie. Il part réellement dans le Dakota pour discuter d'une réforme des taxes. La suite est fausse, car que ce soit pour l'impôt sur les sociétés ou les impôts que paient les particuliers, les États-Unis ne sont pas le pays qui paie le plus de taxes. Et surtout, il n'est mentionné nulle part que cette réforme va alléger les taxes et les cotisations, même si cette manipulation des données nous donne le sentiment que c'est logique. Notre cerveau ne change pas sa manière de fonctionner. Les techniques de manipulation traversent donc les âges et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles dépendent uniquement de l'intention qu'a la personne qui les utilise. Cette intention peut donc être bienveillante, même si cette légitimité bienveillante sera toujours un avis subjectif de la personne qui manipule. Richard Thaler et Cass Sunstein ont développé un concept en 2008 appelé le nudge. Nudge, en anglais, signifie « pousser légèrement » ou « coup de pouce ». Leur idée est que l'on peut manipuler avec bienveillance mais avec parcimonie en poussant légèrement une personne dans la bonne direction. Richard Thaler et Cass Sunstein souhaitaient aider une entreprise à amener ses employés à manger plus sainement. Cette entreprise aurait pu supprimer les aliments gras de leur cantine en usant de leur autorité. Ils auraient pu aussi réaliser une campagne au sein de l'entreprise très anxiogène sur les effets de la malbouffe, en manipulant les émotions. La solution qui s'inspirait du concept de nudge fut de mettre le bar à salade, très garni, à l'entrée du réfectoire et de placer les plats en sauce et les fritures plus loin. Les employés arrivaient à la cantine et comme ils s'étaient déjà servis de salade et de crudités, ils réduisaient les quantités qu'ils prenaient au poste des plats hautement caloriques. Un simple coup de pouce. Je crois sincèrement qu'il s'agit d'une bonne résolution que j'ai moi-même adoptée depuis la lecture de leur livre il y a 13 ans. Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Si je pense que quelqu'un ou un groupe ne va pas dans la bonne direction de leur propre bien, alors je vais agir délicatement, discrètement, sur la racine d'un nouveau trajet possible. Et c'est tout. Une délicate réorientation qui ne supprime pas la liberté de choisir de la personne ou du groupe. Terminons ce chapitre de la manipulation bienveillante avec ce que je pense être sa légitimité profonde. Premièrement, l'être humain est imparfait dans ses prises de décision, même si notre cerveau est extraordinaire, je le pense sincèrement, au point d'avoir écrit des livres qui portent ce titre. Certes, il est rapide, mais au prix de raccourcis dans ses conclusions et dans ses décisions. Ces raccourcis s'appellent les biais cognitifs. Lorsque nous sommes extérieurs à une situation que nous analysons, nous sommes moins soumis à ces mêmes biais. Nous pouvons donc conseiller plus objectivement une personne qui est en train de faire un mauvais choix, comme nous pouvons nous faire nous-mêmes conseiller. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important à retenir, manipuler ne veut pas dire automatiquement se cacher. Notre esprit a ancré l'idée qu'une manipulation se faisait dans l'ombre, tel un génie machiavélique qui tire les ficelles sans que personne en ait conscience. Pourtant, j'ai fait des recherches et aucune loi nous oblige à adopter le comportement du docteur Mad dans Inspecteur Gadget. Bonne nouvelle, car je déteste me déplacer en sous-marin. J'ai adopté le comportement du docteur Mad dans Inspecteur Gadget. Bonne nouvelle, car je déteste me déplacer en sous-marin ou en fusée. Vous pouvez, vous devez, déclarer vos intentions à la personne que vous allez manipuler. Si je veux que ma sœur arrête de fumer, je peux lui dire ouvertement que mon but va être de lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle arrête et que je vais faire en sorte d'atteindre mon but pour elle. Il faut assumer ses objectifs vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez même assumer le fait que vous allez utiliser des méthodes de manipulation, sans évidemment lui rappeler toutes les 5 minutes. Ces deux points rendent la manipulation bienveillante déontologique. Ils permettent aussi de mettre un curseur pour savoir à quel moment on sort du cadre de la bienveillance, même si l'objectif reste noble. Les points à retenir. Pour manipuler avec bienveillance, au service de l'autre, il faut être extérieur à la situation, afin d'avoir une analyse plus objective. Connaître les techniques de manipulation et les considérer comme neutres. Avoir une raison légitime de les utiliser qui doit tendre vers l'altruisme. Ne pas réduire la liberté de choisir de la personne ciblée. orienter la personne plutôt que la mettre directement sur le chemin que l'on veut pour elle. Ne pas cacher ses intentions et ses objectifs, les annoncer clairement à la personne. Le jour où l'on a voulu me manipuler pour mon bien. À l'inverse, vous allez parfois ressentir une impression étrange. Quelqu'un qui vous veut du bien alors que vous ressentez un sentiment étrange face à sa proposition. Un peu comme le sixième sens de Spider-Man, vous pouvez parfois ressentir qu'un danger arrive, une tentative d'intrusion dans votre libre arbitre. Il est assez compliqué de s'en sortir, car comme l'autre personne présente un enrobage de bienveillance envers vous pour impacter sa demande, sa proposition ou son offre, il paraît impoli de dire non. Pire, vous savez que vous allez le vexer et vous vous sentirez coupable. Il faut absolument distinguer ce qui est bienveillant de ce qui ne fait que ressembler à de la bienveillance. Je vais pour cela vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 13 ans et les méthodes que j'ai employées pour m'en sortir. Le jour où on a voulu me faire travailler gratuitement. Nous sommes en 2008 et je sévis, entre autres, en tant qu'artiste magicien et ou mentaliste dans le secteur Rochelais. J'ai remporté le premier prix au Festival des Cannes d'Or l'année passée, ce qui m'a aidé à gagner en crédibilité dans mon secteur. Je commence donc à avoir ma propre clientèle de particuliers et de professionnels et je travaille parfois pour des agences locales, ce qui est nouveau pour moi, puisque la plupart des agences avec qui je travaillais jusqu'à présent étaient plus sur le national et l'étranger que chez moi. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Ce qui est confirmé par ma difficulté à louer un théâtre pour jouer. Attention, je n'ai pas dit que je n'arrivais pas à me faire programmer, ça n'est même pas la question puisque je n'ai pas essayé, mais bien à louer, à mes frais et à mes risques, un lieu pour organiser une représentation de A à Z. J'y arriverai quand même en louant un espace tenu par une association de danse argentine qui me sous-loue leur espace, m'aidant en même temps pour l'accueil, la technique et la billetterie le soir même. Cette soirée a de l'importance pour moi car elle marquera un tournant dans ma vie dont je prendrai conscience des années plus tard. Mais ça n'est pas le bon livre pour m'étendre sur ce point. La soirée a lieu à guichet fermé et mon nom circule de fait encore plus sur La Rochelle. Il faut dire que ça a été l'occasion de mettre mes affiches partout dans la ville pour annoncer la représentation et indiquer mon prix fraîchement remporté. Quelques jours plus tard, en fin de matinée, le téléphone fixe sonne. Rendez-vous compte qu'à cette époque, même si je ne manquais pas de travail, la sonnerie du téléphone fixe était presque toujours une bonne nouvelle, ou un vendeur de fenêtres qui voulait savoir si je voulais bénéficier des avantages des nouvelles lois sur l'isolation des maisons. Je décroche et un homme se présente. Il a un âge mûr, une intonation sûre de lui et me demande si je suis bien moi. Je vérifie rapidement avec moi-même et je confirme que je suis bien moi. Il m'explique qu'il tient une agence d'événementiel sur La Rochelle. Me cite l'agence, que je connais de nom car sa réputation est effectivement bien ancrée sur La Rochelle et auprès de mes clients qui apprécient ses services. Son appel est lié à l'un de ses projets. Il m'explique qu'il organise une soirée spéciale pour fêter l'anniversaire de son agence. La soirée aura lieu sur l'île de Ré le mois suivant, la date et l'heure sont déjà arrêtées. Au cours de cette soirée, il y aura un dîner-spectacle et des artistes passeront sur une scène en fin de repas. Mais pour que l'ambiance soit complète, il y aura des magiciens et des mentalistes qui passeront aux tables des convives pendant le repas afin d'exécuter de courtes prestations et des tours entre les plats. Cette forme de mini-spectacle de proximité s'appelle le close-up. En général, l'artiste passe aux tables durant 5 à 8 minutes pour effectuer des tours. Mon interlocuteur, dirigeant de cette société et dont le nom est aussi connu que son agence, m'explique ensuite que les invités sont de gros clients récurrents à lui ou des clients qu'il souhaite inviter pour leur démontrer son savoir-faire. Il me raconte que tous les artistes, le lieu, le traiteur, etc., jouent le jeu de cette soirée. Entendre par là qu'ils vont tous travailler gratuitement. Et il me propose de faire partie de l'aventure. Il m'annonce ouvertement qu'ensuite, les professionnels qui auront répondu présent à son appel seront rappelés pour être mis en priorité sur les contrats qui découleront de cette soirée, ou qu'il aura dans l'année. Alors, suis-je disponible? Suis-je intéressé? Il lui faut une réponse, et je sens bien que c'est maintenant. D'ailleurs, pendant les 2 à 3 secondes où je ne réponds pas, un malaise a le temps de s'installer. Je dois vous avouer que toute cette conversation va trop vite pour moi. Je n'ai pas pu placer un seul mot, Je n'ai rien pu demander ou objecter car les arguments m'étaient servis sans discontinuité. Il fallait que je réponde maintenant. Je me sentais manipulé et la seule option que j'envisageais était de dire oui, car même si je voyais la manipulation se mettre en place, j'avais peur de me griller auprès de cette société, peur de ne pas avoir le temps de réfléchir, peur de passer à côté d'un réseau local qui pouvait m'aider à me développer. Il me présentait ça comme une belle opportunité pour moi, et c'était vrai. Intégrer cette agence aurait donné de la stabilité à mon travail. Mais derrière cette bienveillance apparente, des choses me dérangeaient sans que je puisse mettre le doigt dessus. Il ne m'avait pas laissé le temps pour réfléchir qu'il me demandait déjà une réponse de principe. Et logiquement, si je suis disponible, je ne vois pas comment décliner sa proposition élégamment et avec des arguments que je n'ai pas. Je n'en sais rien. Me vient alors enfin une seconde option. Je l'applique tout de suite. Je lui raccroche au nez. Vous vous dites que j'ai craqué? Que j'ai paniqué? Ni l'un ni l'autre. Il me manipulait, nous sommes bien d'accord, il en avait conscience et je pense même qu'il s'en fichait que j'en ai conscience du moment que je lui dise oui. Franchement, quelques secondes avant, je ne voyais pas quoi faire d'autre que d'accepter. Et accepter une manipulation dont j'ai conscience sans avoir raisonné est au-dessus de mes forces mentales. C'est pour cela que j'ai raccroché. Pour le faire taire et pour pouvoir réfléchir sans pression. Je lui ai raccroché au nez, mais mentalement j'étais serein. Car je venais de me dire, si je dis oui maintenant et que je regrette, je n'aurai pas d'argument valable pour faire machine arrière sans me griller auprès de son agence. Si je dis non, il ne me fera jamais travailler et deviendra un concurrent contre moi. Si je raccroche, j'aurai juste à m'excuser d'avoir été coupé et je pourrai reprendre la conversation en ayant eu le loisir de réfléchir en amont. Je réfléchis et je le rappelle. Je m'excuse pour cette coupure, sans l'expliquer, et il me raconte que mon téléphone était ensuite en dérangement. Merci pour l'information, je l'avais volontairement décroché pour ne plus être joignable. Je commence par le remercier d'avoir pensé à moi et je lui demande s'il m'a déjà vu travailler. Je sais que non. Il me répond par la négative et me rétorque que c'est justement l'occasion pour lui de me voir à l'action. Je lui réponds que je suis embêté, car si ça ne lui convient pas, je sais qu'il ne me placera pas sur le futur contrat promis. Et c'est la deuxième fois de la conversation où il y a un blanc de quelques secondes entre nous. Mais ce coup-ci, personne ne raccroche. J'enchaîne en lui expliquant qu'étant plutôt une jeune société par rapport à sa puissante entreprise, je ne pouvais pas non plus me permettre de bloquer un créneau aussi favorable qu'un samedi soir sans gagner ma vie. Dans l'événementiel, le samedi est le soir où nous travaillons le plus. Dès samedi, il n'y en a que 4 par mois. Je l'achève en lui expliquant que je pourrais réduire mon tarif pour cette première fois et dans l'espoir d'intégrer son catalogue en appliquant une réduction exceptionnelle de 30%. Toujours un léger temps de latence et il me répond qu'il me tient au courant. Me salue rapidement et raccroche, probablement pour chercher un autre artiste à ma place. Cette tranche de ma vie contient ce qu'il faut pour continuer ce chapitre, mais je vais quand même satisfaire votre curiosité. Il ne m'a pas rappelé pour me tenir au courant, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il cherchait plus un nombre d'artistes à cocher plutôt que des artistes en particulier. La soirée a donc eu lieu sans moi. Mais je ne l'ai pas froissé par mon nom, car j'avais coupé la manipulation assez tôt pour réfléchir et comprendre ce qui me dérangeait dans sa manière de faire. Résultat, de 2009 à 2013, je suis l'artiste qui a le plus travaillé pour cette agence. Et j'ai même signé une exclusivité territoriale avec eux sur cette période. J'y ai rencontré des personnes formidables, suis devenu ami avec le dirigeant, appris beaucoup de choses et cerise sur le gâteau, le dirigeant ne se souvient même plus de m'avoir contacté pour cette soirée à l'époque. Il m'a confirmé qu'il était trop dans l'urgence pour avoir le temps de vraiment sélectionner les artistes qu'il appelait. Reprenons où nous en étions. Mon but, en partageant avec vous ce souvenir, est de vous décrire une situation qui est assez peu abordée dans les ouvrages parlant de la manipulation. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de référence à ce sujet, le fait de se sentir manipulé et de ne pas trouver d'autre solution que d'accepter, malgré le fait de savoir que nous sommes au centre d'une manipulation grossière. L'ensemble ressemble à de la bienveillance, mais le goût est différent. C'est pourtant quelque chose de courant, que nombre d'entre nous connaît. Lorsque j'en parle en conférence, chacun y raccorde des souvenirs très récents de leur vie. On peut donc constater que le fait de reconnaître la manipulation et d'identifier les techniques employées ne serait ici d'aucune aide. L'artiste de la manipulation a franchi la limite de l'ombre. Il se fiche d'être démasqué et seul votre « oui » lui importe. Voici comment désamorcer cette bombe de fausse bienveillance pour résister à la tentation d'accéder à la demande, dans le seul but de se sentir libéré. Non coupable. Un élément récurrent qui vous force à accepter sous la pression d'une forme de gentillesse est la culpabilité. Vous voyez agir le manipulateur. Vous savez qu'il sait que vous savez, que cette phrase est dure à dire. Et pourtant, vous ne vous sentez pas à l'aise pour formuler un refus. C'est la culpabilité qui vous en empêche. Elle peut être vis-à-vis de lui, aussi étonnant que cela puisse paraître, vis-à-vis d'une tierce personne ou vis-à-vis de vous-même. Comme dans mon histoire où je risquais de perdre des atouts dans mon développement professionnel. Vous devez vous libérer de vos émotions, en particulier de votre culpabilité. Comprendre que cette culpabilité vous empêche d'analyser sereinement la situation. Le manipulateur souffle sur vos peurs et vos espoirs en même temps pour vous empêcher de rationaliser. Les choix qu'il vous offre sont une vision déformée de la réalité qui vous empêche de voir la réalité objective. Dans un premier temps, dites-vous que vous n'êtes pas responsable de la situation et qu'elle n'est probablement pas aussi limitée dans ses options que accepter ou refuser. Vous avez forcément le choix. Mettre les pendules à l'heure. Ce conseil ne vous servira pas forcément à chaque fois. Les prochains conseils non plus d'ailleurs. Ils sont simplement des éléments de votre protection et vous utiliserez à bon escient ce qui vous semble pertinent en fonction de la situation que vous vivez. Mettre les pendules à l'heure signifie simplement verbaliser le fait que vous voyez ce que la personne fait, qu'elle vous manipule pour obtenir votre consentement pour faire ou dire quelque chose. Si le manipulateur pouvait se douter que vous l'aviez démasqué, maintenant, il en est certain. Son pouvoir se limite alors dans son obstination à continuer son jeu malsain, mais vous lui offrez une porte de sortie pour arrêter. Dans mon histoire précédente, vous constatez qu'avec son flot incessant, je n'ai pas pu le faire. Mais en sa présence, j'aurais formulé un « Excusez-moi, tout ça va tellement vite que j'ai l'impression que vous me laissez un choix binaire sans que je puisse réfléchir calmement à la proposition. » Cette phrase aurait soit désamorcé sa manipulation, au bénéfice d'une discussion plus rationnelle, soit conforté à continuer sur cette voie, en sachant que je ne donnais peut-être pas de crédibilité à ses arguments.